Une semaine d'actualité. Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, aujourd'hui c'est l'actualité française qui va être en évidence dans notre rendez-vous du samedi avec bien sûr les reportages de la rédaction. Élection présidentielle oblige avec la victoire d'Emmanuel Macron. Écoutez-le d'ailleurs dimanche soir dans son discours au Louvre.
La tâche qui nous attend, mes chers concitoyens, est immense. Elle imposera de renforcer notre économie, de construire les nouvelles protections de ce monde qui nous entoure. Que la France soit elle-même, et c'est cela ce que nous ferons.
Le lendemain, lundi 8 mai, Emmanuel Macron était aux côtés de François Hollande pour les cérémonies commémorant cette fois la fin de la Seconde Guerre mondiale à l'Arc de Triomphe. Pour le président sortant, il y avait beaucoup d'émotions.
De l'émotion parce qu'ici, vous voyez, toutes les personnes que j'ai saluées, je les ai connues dans toutes les circonstances, cérémonies. Je pense aussi à nos armées. J'ai salué les chefs d'état-major parce que je sais ce que je leur ai demandé à tous ces militaires. Je sais ce qu'ils ont donné à la France. Plusieurs sont morts. Donc j'ai beaucoup d'émotion d'être sur ces lieux. Et puis j'avais beaucoup d'émotion aussi, disons-le très franchement, très sincèrement, de donner à Emmanuel Macron la marche à suivre.
Angela Merkel, la chancelière allemande, a été parmi les premiers responsables étrangers à réagir à la victoire d'Emmanuel Macron. Il ira d'ailleurs la voir lundi. Écoutez-la, lundi dernier.
Je me suis beaucoup réjouie de la victoire grandiose d'Emmanuel Macron. Je l'ai félicité dès hier soir par téléphone. Emmanuel Macron porte les espoirs de millions de Français comme de beaucoup d'Allemands et d'Européens. Il a mené une campagne pro-européenne courageuse. Il représente une ouverture sur le monde. Il défend l'économie sociale de marché. Je lui souhaite, ainsi qu'à tous les Français, tout le succès possible.
Den Menschen in Frankreich allen erdenklichen Erfolg.
Édition spéciale donc d'une semaine d'actualité, spéciale élection présidentielle, ce qui ne va pas nous empêcher de nous rendre en Corée du Sud et aux États-Unis et bien sûr sur le continent africain tout à l'heure. Et c'est le regard d'un philosophe que je vous propose pour parler démocratie, celui de Frédéric Worms. Bonjour Frédéric Worms.
Bonjour Pierre-Edouard Deldic.
Ravi de vous retrouver à ce micro, on avait conversé ensemble dans le magazine Idées, on le fera dans les mois qui viennent. Je rappelle que vous êtes professeur de philosophie à Normalsup, membre du comité consultatif d'éthique et spécialiste de Bergson, entre autres activités. Alors, il faut rappeler les résultats. Hein. Emmanuel Macron élu avec 66,1% des voix, soit 20 743 128 votants. Et Marine Le Pen, 33,9%. Ça représente 10 603 475 bulletins. 12 millions de Français n'ont pas voté. C'est l'abstention la plus forte depuis 1969. À noter aussi 8,51% de vote blanc et 2,96% de vote nul, donc un résultat qui est quand même un brillant résultat, mais avec quand même des zones d'ombre, si j'ose dire, Frédéric.
Oui, pour moi, c'est une élection et un résultat qui ont quelque chose d'historique pour de mauvaises et on peut espérer aussi pour de bonnes raisons. Je pense que les raisons qui étaient inquiétantes quand même et qui le restent un petit peu, et qui expliquent en partie aussi cette abstention, c'est que d'habitude, une élection se joue dans un cadre qui est stable et sur des positions opposées. En accord avec le cadre. C'est ce qu'on appelle la gauche, la droite, des partis traditionnels, etc. Et là, au fond, chacun quand même s'y retrouve plus ou moins, c'est-à-dire que son désaccord est représenté par quelqu'un dans un cadre commun. Et là, on a quand même senti que l'élection portait pas seulement dans le cadre, mais en un sens sur le cadre. Que le cadre même de la démocratie, des institutions républicaines, était fragilisé, peut-être menacé même par certains partis, par certains risques, comme il l'a été aux États-Unis, comme il l'est dans certains pays européens où on assiste à ce qu'on appelle des démocratures, mais qui sont parfois plus proches de la dictature que de la démocratie. Et donc, en un certain sens, c'était ça le danger. Et c'est vrai que l'abstention s'explique beaucoup par les gens qui n'y retrouvent pas leur repère traditionnel, qui ne voulaient pas être pris dans ce débat plus grave. Mais en même temps, ce débat était là et il fallait quand même l'affronter. Et de ce point de vue-là, je pense que même la tentative d'Emmanuel Macron est un peu déstabilisante, mais je crois qu'elle elle accepte le cadre. Ce qu'il conteste, lui, ça n'est pas le cadre républicain. C'est plutôt les appareils politiques traditionnels qui, dans ce cadre, ont durci le cadre, on pourrait dire. Alors, et donc, c'est deux manières de changer la politique, mais lui, il est dans le cadre républicain, et de ce point de vue-là, c'est fondamental.
Frédéric Worms, vous venez de publier un livre qui s'intitule « Les maladies chroniques de la démocratie » aux éditions des Clés de Brouwer. Et on a un auditeur, là, un de nos nombreux auditeurs qui nous écrivent chaque semaine, Mohamedou à Oyem, au Gabon, qui nous a envoyé un message dans lequel il fait une longue analyse du scrutin. Et il souligne, dit-il, la fluidité du processus électoral et démocratique en France.
Je pense que par fluidité, oui, il a raison en un sens. C'est ce que j'appelais le cadre, justement. Il y a quand même, on est un pays qui a des institutions en lesquelles les gens ont confiance et qui fonctionnent. Il y a eu quand même, je trouve, pour la première fois dans ce pays, des gens qui ont mis en cause, y compris le comptage des voix. Je trouve ça extrêmement grave de leur part. Et je pense qu'il faut vraiment pas céder à ces rumeurs qui visent à déstabiliser le cadre. Mais il a raison. Il y a une fluidité des institutions. Heureusement, c'est fondamental. Mais dans cette fluidité politique institutionnelle, cette fluidité a connu des tourments aussi. Il y a eu des cascades, il y a eu des virages, il y a eu un peu des passages torrentueux. C'est devenu parfois un torrent de haute montagne.
Alors, ce livre est passionnant parce qu'il réfléchit sur la notion de démocratie et sur la faiblesse, j'allais dire ontologique, chronique de la démocratie.
Exactement. Je pense que les institutions dont on parle, la fluidité dont parle votre auditeur, c'est pas du tout quelque chose de naturel ou de spontané. La démocratie se conquiert toujours contre des risques structurels dans la nature humaine, on pourrait dire, dans une société politique. Le risque d'un désaccord qui devient une guerre ou bien de doutes mutuels qui empêchent justement cette confiance mutuelle, aussi de déni de ces violences possibles. Et donc c'est une conquête qui permet d'accepter un cadre commun. Et ce que j'appelle les maladies chroniques, c'est en effet que ces risques qu'elle a conjurés, elle peut croire les avoir éliminés, et ça n'est jamais le cas. Ils sont toujours là. Mais comme dans les maladies chroniques, on peut les contenir, les maintenir en dessous du niveau de la mer, j'allais dire en dessous du niveau de la crise.
Démocratie, soulignez-vous, Frédéric, qui régule la violence.
La fonction de la démocratie, il me semble, c'est en effet de réguler la violence. C'est d'abord la violence de la tyrannie. C'est l'origine même de la démocratie. C'est le peuple qui reprend le pouvoir contre ceux qui l'usurpent. Mmh. Mais en réalité, le risque de la tyrannie est aussi intérieur au peuple lui-même. Et en effet, il y a toujours le risque de l'abus de pouvoir. On le sait dans les relations intimes, on le sait dans les couples, on le sait dans les familles, on le sait entre amis. Et c'est vrai aussi dans une société politique. Et donc, la démocratie est toujours en train de lutter contre des risques extérieurs, mais aussi contre cette violence intérieure. On croit parfois que c'est le régime le plus naïf, le plus idéaliste. Certains disent le régime des bisounours, des bons sentiments. Je crois que c'est au contraire le régime le plus courageux parce qu'il affronte toujours ce démon intérieur.
Démocratie, pouvoir du peuple donc, et pouvoir d'individus qui eux-mêmes sont ambivalents.
Pouvoir du peuple qui lui-même peut être ambivalent, en effet. Hein, c'est-à-dire que quand quelqu'un dit, comme le slogan de Marine Le Pen, au nom du peuple, je crois que le peuple lui-même ne peut pas tout se permettre contre lui-même. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple et aussi la limitation par le peuple de son propre pouvoir, par exemple par la séparation des institutions, la séparation des pouvoirs, non pas la transmission à quelqu'un d'autre, mais le contrôle interne. Un individu, en effet, est toujours ambivalent et je pense qu'il faut à la fois des moments d'incarnation. L'élection présidentielle est un moment qu'il y a quelque chose d'assez particulier. Emmanuel Macron lui-même parlait de mystique. C'est pas entièrement faux, mais c'est très dangereux, évidemment. Le président, c'est une institution avant d'être une personne.
Alors, on va revenir tout à l'heure sur le discours, le premier discours du président élu dimanche soir au Louvre, parce qu'il a un contenu intéressant. Il parle notamment du cynisme, qui est une des maladies de la démocratie, selon vous. On va en reparler dans un instant.
Sept jours dans le monde.
Frédéric Worms, nous allons faire deux escales maintenant hors de France, dans deux démocraties d'ailleurs. Partons d'abord pour la Corée du Sud. Après l'élection à la présidence de Moon Jae-in, un ancien avocat spécialisé dans la défense des droits de l'homme, Séoul mardi, Frédéric Ojardias.
Moon Jae-in, 64 ans, est un ancien avocat de défense des droits de l'homme et un ancien militant pro-démocratie. Des activités qui lui ont valu la prison sous la dictature de Park Chung-hee, le père de la précédente présidente. Moon Jae-in entre tard en politique en 2003 quand il devient le chef de cabinet du président Noh Moo-hyun, un associé de la première heure dans ses combats militants. Pragmatique mais peu éloquent, il a tout de même su convaincre ses électeurs par ses promesses de meilleure protection sociale et de lutte contre la corruption. Accusé d'être un sympathisant nord-coréen par la droite ultra-conservatrice, Moon Jae-in est partisan d'une reprise du dialogue et des projets de coopération avec le régime de Pyongyang. Il s'est même dit prêt à rencontrer le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. S'il n'est pas opposé aux sanctions visant le Nord, il considère aussi que la négociation est la seule solution à la crise nucléaire. Il a aussi déclaré que la Corée du Sud doit apprendre à dire non aux États-Unis. Son élection pourrait donc ouvrir une nouvelle phase de dialogue sur la péninsule coréenne.
Le président des États-Unis, Donald Trump, a limogé le patron du FBI, James Comey, nommé pourtant pour 10 ans en 2013. Une décision surprise qui a provoqué une onde de choc à Washington. Les démocrates du Congrès ont dénoncé ce limogeage comme une tentative possible de saper l'enquête en cours sur une éventuelle collusion entre les proches de Donald Trump et la Russie pendant la campagne électorale. Washington, mercredi, Anne-Marie Capomaccio.
James Comey est l'une des personnalités les plus controversées des États-Unis, un homme craint et parfois détesté par les républicains comme par les démocrates. Donald Trump l'a tour à tour traîné dans la boue puis félicité au cours de la campagne. Il l'a traîné dans la boue lorsque James Comey a annoncé qu'il n'avait aucune raison de poursuivre Hillary Clinton dans l'affaire du serveur privé. Il l'a encensé ensuite quand le FBI a rouvert l'enquête sur les emails Clinton 10 jours avant l'élection. C'est-à-dire James Comey d'ailleurs, qu'Hillary Clinton attribue en grande partie sa défaite. Le directeur du FBI, qui semblait imperméable à ces attaques, a continué à travailler. Et c'est le même homme qui a ouvert une enquête sur les liens éventuels de la campagne Trump avec la Russie. D'après de nombreux observateurs, c'est ce qui lui coûte son poste aujourd'hui. Nous sommes une république bananière, c'est le retour à l'ère Nixon, écrivent des élus démocrates. Que va devenir l'investigation sur les interférences russes dans la campagne ? Il est à parier que Donald Trump nommera à la tête du FBI un directeur moins indépendant que l'inflexible James Comey.
Suite à une semaine d'actualité, toujours en compagnie de Frédéric Worms, qui dans son dernier livre s'intéresse à la démocratie, les maladies chroniques de la démocratie. Là, les États-Unis constituent un pays réellement démocratique, où on voit qu'il y a une bascule des pouvoirs, un équilibre des pouvoirs. Un commentaire sur ce que vous venez d'entendre et sur ce curieux limogeage qui provoque toujours une onde de choc à Washington.
Oui, ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'on parlait juste avant ces deux témoignages internationaux, on parlait du président français, de l'incarnation présidentielle, et on disait que le président n'était pas une personne, mais une institution. Et c'est vrai que, moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que l'exemple vient parfois de là où on ne l'attend pas, et le contre-exemple de là où on ne l'attend pas non plus. En Corée du Sud, c'est quand même assez remarquable, c'est-à-dire que c'est un mouvement populaire de lutte contre une appropriation du pouvoir par une présidente qui faisait confiance à quand même quelque chose comme une secte, et la corruption était immense. C'est des mouvements populaires qui ont emmené une destitution démocratique. Ça prouve bien qu'il y a des contre-pouvoirs dans une démocratie. Et que la démocratie, ça n'est pas seulement le pouvoir du peuple, mais le contre-pouvoir de ce pouvoir. Et en revanche, aux États-Unis, on assiste de manière très dangereuse, en effet, à une naissance de l'arbitraire dans une démocratie qui, justement, était célèbre pour ses contre-pouvoirs.
Oui.
La justice est aux États-Unis au moins aussi importante que le président. La presse est traditionnellement un contre-pouvoir fondamental. Et Donald Trump, dans sa campagne, a menacé tous ses contre-pouvoirs de façon assez systématique. Et là, en limogeant un haut fonctionnaire, même si celui-ci, en effet, réveille des souvenirs un peu troubles du FBI de la grande époque, le Edgar Hoover qui était lié à Kennedy, mais aussi à l'assassinat de Kennedy, on ne saura jamais comment. Là, on est dans une époque un peu trouble, mais où justement, on a besoin plutôt du respect des contre-pouvoirs que d'un abus de pouvoir arbitraire. Et donc, le point commun, c'est quand même les institutions. En un certain sens, la démocratie est vivante, elle rencontre partout ses adversaires, mais justement, elle éprouve qu'elle est vivante, donc elle peut être malade, mais elle peut aussi y résister.
Alors, la démocratie qui se développe, peu ou prou, dans le monde, à part certains pays où elle régresse, comme la Turquie, par exemple, cette démocratie met à chaque fois en valeur des problèmes, d'où l'impression à chaque fois qu'il y a un grand malaise, alors qu'on peut à la limite se réjouir, parce que ces questions mises en avant dans la démocratie le sont précisément en toute liberté, de toute apparence. Il n'y a pas de de problèmes cachés.
Exactement. En un sens, il y a un problème maintenant mondial qui est le problème de la démocratie elle-même et de ses régressions ou de ses progrès. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'il y a de fortes régressions démocratiques. Mais évidemment, comme vous le disiez très bien, le signe du progrès de la démocratie, ça n'est certainement pas un bonheur parfait, la fin de l'histoire, comme on l'a cru il y a une trentaine d'années.
Ça aussi, vous y revenez dans le livre, la fin de la guerre froide, le fameux livre de Francis Fukuyama.
La fin de l'histoire.
Et le modèle unique, voilà. Le modèle libéral irriguant le monde entier.
En réalité, la démocratie n'est pas quelque chose de parfait chez nous, qu'on pourrait exporter comme ça sans problème. Le critère, justement, comme vous le disiez, du progrès de la démocratie, c'est plutôt d'accroître les problèmes. On voit bien que la démocratie, c'est une revendication d'égalité, mais toujours contre de nouvelles inégalités qui peuvent surgir et faire problème. Aujourd'hui, on a des problèmes de démocratie mondiale avec les problèmes d'écologie. Certains pays ont reconnu des droits à des fleuves ou à des zones écologiques à défendre, en quelque sorte. Il y a quand même le droit des femmes, le droit des l'égalité mondiale. En fait, finalement, le progrès de la démocratie, c'est plutôt de faire saisir de nouveaux problèmes à régler que de faire disparaître tous les problèmes magiquement. Ça n'est pas une baguette magique. C'est plutôt lutter contre des problèmes pour éviter que le déni de ces problèmes conduise à des régressions terribles, parce que les gens font face à des problèmes. Il y a des nouveautés écologiques, politiques, numériques. Et si on ne lutte pas contre elles, le repli contre la démocratie, soi-disant incapable d'y faire face, va se produire. Or, la démocratie est une manière intelligente, collective, juste, de faire face à des nouveaux problèmes, pas de les effacer.
Parce qu'effectivement, la démocratie, c'est le citoyen qui peut s'ériger contre le pouvoir.
Absolument, c'est le citoyen qui s'érige contre le pouvoir et le pouvoir qui le lui permet et les institutions de contestation qui sont légitimes, la presse, les médias en général, l'université, l'école qui permet de s'informer, de se documenter, qui permet d'accéder à la parole. Il y a un certain nombre de conditions à cette accession du citoyen à la parole, et le pouvoir, bien loin d'être menacé par elle, devrait se sentir conforté par elle. Et le partage de la parole démocratique entre les représentants élus, les citoyens, l'ensemble des médias, devrait être aujourd'hui une priorité pour la politique.
Alors, Frédéric Worms, vous distinguez dans votre livre trois grandes maladies qui minent en quelque sorte la démocratie, c'est le cynisme, le racisme et l'ultralibéralisme. On en reparlera tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission. Mais il est curieux de signaler d'ores et déjà que dans son discours du Louvre, Emmanuel Macron a mis en garde contre l'ironie et ce qu'il voulait dire dans sa bouche, le cynisme.
Oui, alors moi, il se trouve que, évidemment, comme tous les citoyens français...
Je me suis dit, tiens, il a lu votre livre.
Ah oui, je ne sais pas s'il a lu le livre, mais en tout cas, il a été sensible à un problème fondamental. Mais j'aurais pas employé le même mot que lui, si je peux me permettre. En réalité, j'aurais distingué l'ironie et la raillerie. Ce qu'il appelait ironie, c'était la raillerie. Je pense que ce sont les gens qui, entre eux, dans les salons, mais aussi dans certains types de salons.
Il parle aussi d'entre-soi.
Le salon, mais aussi, pas seulement des salons privés, les gens qui sont sur des plateaux de télévision, les gens qui sont au pouvoir, en effet, dans des petits cercles, et qui se moquent des autres, qui dévaluent les autres, et aussi parfois les institutions, les gens qui raillent la démocratie elle-même.
Souvent,
parle de droit de l'hommisme, etc. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est les gens qui critiquent les autres et les principes universels, au nom d'eux-mêmes, parfois qui se critiquent eux-mêmes, parce que très souvent, le cynique se dévalue lui-même. C'est vraiment ce qu'on appelle parfois aussi le nihiliste, celui qui ne croit plus à rien. Et donc, alors que la démocratie a besoin d'une confiance dans les cadres. On dit, il y a de la vérité, et l'autre ricane. Et celui qui ricane, c'est vraiment un danger pour la démocratie. Le ricanement de Trump, pour moi, est un danger pour la démocratie. Mais à cette raillerie-là, le ricaneur professionnel sur certains plateaux de télévision, moi, j'oppose l'ironie. L'ironie, c'est Socrate. L'ironie, c'est celui qui doute de lui-même pour accéder à la vérité, qui doute de lui-même pour ouvrir les autres sur la vérité, qui montre qu'il ne sait rien, mais justement, parlons ensemble, qui ouvre l'espace commun. Et donc, moi, j'opposerais la raillerie qui se moque des autres et jamais d'elle-même, et l'ironie qui se moque de soi et jamais des autres. Vous voyez ?
C'est très différent.
C'est extrêmement différent. Et je crois qu'à la limite, distinguer l'ironie et la raillerie, c'est une ligne de conduite même dans la vie. Vivez avec des ironistes et évitez les railleurs. Vous ne vous en porterez que mieux. Et c'est pour ça
Merci pour le conseil.
Emmanuel Macron avait parfaitement raison. Il faut critiquer l'entre-soi, le cynisme, la raillerie démocratique. Ce sont vraiment des poisons mortels. C'est pas secondaire. On pourrait dire les injustices, le racisme, c'est beaucoup plus grave. En fait, ce qui nourrit tout le reste, c'est ce cynisme, ce désaveu des principes. Et ce qui peut lutter, c'est l'ironie. Parce que, voilà, les ironistes, on en a besoin. Ne croyons pas, pas non plus un blanc-seing, comme on dit.
Frédéric Worms, nous allons faire une pause, écouter quelques nouvelles du monde de ces dernières heures, cette fois. Et on se retrouve dans 3 minutes. À tout de suite.
Merci beaucoup.
Merci pour toutes ces informations. On se retrouve, nous, pour revivre 7 jours d'actualité, surtout en France, ce samedi, après l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence. Nous sommes toujours en compagnie d'un des grands philosophes français, Frédéric Worms, avec lequel nous parlons de la démocratie. Il vient d'écrire « Les maladies chroniques de la démocratie », un livre publié chez Desclés de Brouwer.
Une semaine d'actualité.
Alors on va repartir dans l'élection de dimanche dernier, Frédéric Worms. Je voudrais, avant de reparler de politique, insister sur un des côtés de votre livre, de votre analyse, dans lequel vous dites que la démocratie c'est la liberté, mais que souvent cette liberté aboutit à une servitude.
C'est-à-dire que la liberté...
Reprenant la Boétie, oui. La servitude volontaire.
Oui, oui, absolument. C'est-à-dire que la liberté doit toujours être conquise contre un pouvoir qui lui-même ne vient pas seulement du hasard ou de l'extérieur, mais qui répond peut-être à certains besoins vitaux de l'homme. Par exemple, lutter contre la peur, contre le danger, oui. On s'en remet à un pouvoir, on est prêt à sacrifier sa liberté pour sauver sa vie. En réalité, peut-être que philosophiquement et politiquement, le seul adversaire possible de la liberté, c'est la vie, parce qu'il faut sauver sa vie. Et on oublie que la liberté est tout aussi vitale, parce qu'on est d'abord en train de sauver son corps, et au fond, toutes les dictatures ont toujours dit que c'était pour notre bien, pour sauver notre vie. Et donc la liberté peut en effet renoncer à elle-même au nom d'urgence politique.
Ça, on le voit tous les jours dans l'actualité, c'est pour ça que je vous posais une question.
L'actualité, effectivement, nous réveille souvent avec ce cauchemar-là, c'est-à-dire un danger arrive, un attentat, une catastrophe, et en prime, en double peine, en quelque sorte, on nous dit renoncez à votre liberté pour sauver votre vie. Alors qu'en réalité, on s'aperçoit bien qu'à la fois en interne, parfois il faut suspendre. Provisoirement, c'est l'état d'exception, peu comme la légitime défense, mais au nom de la liberté et pour y revenir. Et puis même si on veut éviter des attentats, ou même, je dirais, même les catastrophes naturelles, en réalité, le seul moyen de lutter vraiment contre elles, c'est de s'organiser de façon juste. On n'éliminera pas les météorites, les tremblements de terre, les tsunamis. Mais par contre, on sait très bien qu'après le tsunami, la vraie question, c'est pourquoi est-ce que lui a été sauvé et pas moi? Pourquoi est-ce qu'on m'a forcé à faire ceci et on m'a pas permis de faire cela? Et donc la question de la liberté n'est pas secondaire. Mais parfois, elle passe au second plan. Et la servitude volontaire, comme disait la Boétie, eh bien c'est toujours une pratique qu'on nous impose et on oublie qu'on est libre parce que d'autres urgences sont venues masquer la liberté.
Alors Frédéric, continuons à remonter le temps. Nous sommes à nouveau dimanche soir au Louvre, au cœur historique de Paris,
prestigieux. Dimanche 7 mai, donc dernier.
Dimanche 7 mai, voilà exactement. Anissa El Jabri.
Il est 20h, voici le nouveau président de la République et c'est Emmanuel.
Il y a des sourires, bien sûr, une bouteille de champagne dont le bouchon saute. Mais les cris de joie s'arrêtent assez vite, 64-65%, on ne sait pas bien encore. La victoire est là, mais la joie mesurée.
Très beau score, on est vraiment très contents. Mais c'est quand même inquiétant de voir le Front National qui a reçu un score comme ça, c'est triste.
Il y est arrivé, on est très très contents. C'est un immense soulagement, mais à la fois c'est le début. Les gens sont désormais défiants vis-à-vis de la politique. On a énormément d'attentes désormais.
Et rien que pour le choix du Premier ministre, pas simple.
Peut-être Monsieur Bayrou.
Plutôt issu des rangs de la gauche.
Hors des partis, hors de la politique, là pour le pays et pas pour un parti.
Une femme.
Plutôt de droite, raisonnable. Avoir Christine Lagarde, ce serait le rêve.
Moi j'ai candidaté comme ministre du bonheur.
La candidate au bonheur se met à danser, savourer ces quelques heures qui sonnent pour beaucoup comme une simple parenthèse avant les difficultés.
Frédéric Worms, écoutons un nouvel extrait du premier discours du président élu.
Je vous servirai avec humilité, avec force. Je vous servirai au nom de notre devise, liberté, égalité, fraternité. Je vous servirai dans la fidélité, de la confiance. Je vous servirai avec amour. Vive la République, vive la France!
De son côté, Marine Le Pen, qui a engrangé, il faut le rappeler, près de 11 millions de voix lors du second tour, donc deux fois plus que son père en 2002, a annoncé une refonte du Front National après sa défaite. Pierre Firsion dimanche à Hénin-Beaumont.
Marine Le Pen a eu beau effectuer quelques pas de danse, les cadres frontistes n'étaient pas vraiment d'humeur à faire la fête. Certes, la candidate a recueilli plus de 11 millions de voix, mais son score de 35% est nettement en deçà de celui espéré en interne. Si depuis le débat de mercredi, plus personne ne rêvait de succès, l'équipe frontiste escomptait tout de même un chiffre beaucoup plus élevé, ce qui n'a pas manqué de faire naître dès hier soir quelques tensions en interne. On n'a pas fait la bonne campagne, pestait hors micro un eurodéputé, et celui-ci d'ajouter irrité, il aurait fallu cogner avant le premier tour et rassembler au second. Des règlements de compte, ce ne sera cependant pas pour tout de suite. Élections législatives obligent. Dès cette semaine, le parti va se mettre en ordre de bataille, avec un objectif en tête, gagner au moins une quinzaine de circonscriptions pour disposer d'un groupe à l'Assemblée. Et sitôt ce scrutin passé, le FN entamera sa mue. Il changera de nom après ces élections, comme l'ont annoncé plusieurs dirigeants frontistes. Une évolution que l'on juge désormais incontournable en interne, pour pouvoir espérer un jour rassembler une majorité de Français.
Et je vous propose d'écouter maintenant un extrait du discours de dimanche soir de Marine Le Pen.
Le Front National, qui s'est engagé dans une stratégie d'alliance, doit lui aussi profondément se renouveler afin d'être à la hauteur de cette opportunité historique et des attentes des Français exprimées lors de ce second tour. Je proposerai donc d'engager une transformation profonde de notre mouvement afin de constituer une nouvelle force politique que de nombreux Français appellent de leurs vœux et qui est plus que jamais nécessaire au redressement du pays.
Et François Hollande, encore président pour quelques heures, jusqu'à la passation de pouvoir demain matin, que va-t-il faire après ? Il en a parlé mercredi, en marge des cérémonies de commémoration de l'abolition de l'esclavage, c'était au jardin du Luxembourg, à Paris.
J'ai terminé avec les cérémonies comme président de la République, mais la politique, elle est celle que tout citoyen, quelle qu'ait été sa place, quel qu'ait été son rôle, quelle que soit sa position, doit avoir à l'esprit. La politique, c'est la vie de la France. La politique, c'est les choix essentiels pour le pays. Et donc, nul ne peut se mettre à l'écart. Et il y a toujours une utilité. Il faut se poser cette même question qui revient sans cesse. Comment puis-je être utile à mon pays ? Et bien, c'est à cette question que je vais répondre maintenant en réfléchissant, en travaillant, en produisant et en intervenant quand ça me paraîtra utile.
Sept jours en France.
Alors Frédéric, nous revoici dans l'élection présidentielle. Un auditeur qui vient de nous écrire, Mamadou à Conakry, se demande est-ce que cette élection marque la fin des partis traditionnels ? C'est une question intéressante. Alors il faut aussi noter dans l'actualité politique les investitures Macron jeudi. 428 candidats sur 577 ont été désignés. La création du mouvement de Benoît Hamon, de Martine Aubry sur les ruines du Parti Socialiste. Le retrait de Marion Maréchal Le Pen. Puisqu'on vient de parler du Front National, quelle est votre vision, vous, du Front National aujourd'hui ?
Plusieurs choses m'ont frappé dans les témoignages qu'on a revécus, réentendus dans ce que vous venez de diffuser. Au fond, dans cet entre-deux-tours, surtout dans certains discours de Marine Le Pen et puis surtout dans le débat télévisé, ce fameux débat télévisé qui a représenté un moment, je dirais, de catharsis au sens des Grecs, de purgation, d'expression de quelque chose au niveau non seulement national d'ailleurs, mais peut-être international. Donc d'une part, cette position de Marine Le Pen. De l'autre côté, dans le discours d'Emmanuel Macron, vous avez noté, je servirai la devise, liberté, égalité, fraternité, mais aussi je vous servirai avec amour. On a noté quand même, je trouve un retour des passions, on pourrait dire. Un retour des passions qui va au-delà du cadre démocratique normal, des mesures techniques, de la politique, qu'est-ce que vous ferez avec l'euro, avec ce que vous ferez avec ceci ou avec cela. Et là, j'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose d'assez frontal, avec un retour de passion quand même, de repli, de haine, on ne peut pas le dire autrement, qui se traduisent quand même dans des institutions. Le programme du Front National, il ne faut pas l'oublier, avait des projets institutionnels quand même assez dangereux pour la France, avec des projets référendaires proches de ce qui se fait en Turquie, avec quand même une refonte de la 5e République très précise, dont on n'a pas assez parlé. Mais il y avait des passions. Et Emmanuel Macron, ce qu'il a assumé, je dirais, c'est un certain langage passionnel aussi, le langage de l'amour. Alors est-ce que ça
avec
fait une politique...
Avec aussi cette expression « peuple de France »
peuple
qui
de
revient
France,
dans ses discours.
Et puis
«
je vous aime
oui, », oui, oui.
Un langage mystique assumé qui, je pense, a eu sa force, avait sa nécessité, sans doute. La question, c'est maintenant revenir à la politique. Et effectivement, je pense que la création de nouveaux partis est essentielle. Lui, en un sens, il respecte les institutions fondamentales, comme on le disait tout à l'heure. Il cherche à renouveler les appareils. Il y a manifestement une crise passionnelle. population, il y a quelque chose qu'il faut absolument dégripper, remettre dans la citoyenneté, j'allais dire, normale. Est-ce que la politique doit être un métier? Est-ce que la politique doit être réservée à ces écoles, quand même, que sont les partis, le cadre militant, peut-être qu'on peut pas entièrement s'en passer, mais qu'il faut le renouveler dans le temps.
Il y a peut-être un principe de réalité qui va apparaître.
Il faut un mixte, certainement, de participation ouverte et renouvelée dans le temps, et de compétences et de formation et de responsabilité. Le clivage est à réinventer. Il est incontestable qu'il faut réinventer quelque chose.
Parce que le clivage va réapparaître dès l'instant où les fameuses ordonnances vont être signées par Emmanuel Macron.
Il faut qu'il réapparaisse. Ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'il y ait une position démocratique, qu'il y ait une social-démocratie et une démocratie plus libérale, et au fond que le mot démocratie fasse le lien entre tout le monde. Au fond, moi je ne suis pas du tout frustré quand il y a dans un même pays des différences qui s'expriment fortement, mais sur des points très précis. Un article d'une loi sur le travail peut concentrer un débat social entre les syndicats et les patronats, entre la gauche et la droite. Et c'est ça la démocratie légitime. C'est qu'on voit les grands principes sur des petits points précis. La pénibilité du travail, l'âge de la retraite, telle ou telle ouverture scolaire.
Le diable se cache dans les détails.
Le diable, mais aussi le bon Dieu, mais aussi la justice et le bonheur, au fond. Et le drame de cette période récente dans le monde, c'est que ce sont les grands sujets, les grands cadres qui ont vacillé. Je crois qu'il serait temps de voir maintenant dans quel point précis on peut, non pas sauver le monde, mais faire progresser la justice.
Frédéric Worms, il y a, vous avez entendu cette supportrice d'Emmanuel Macron qui était dimanche soir au Louvre.
Ministre du Bonheur.
Voilà, c'est ça, qui est candidate au poste de ministre du Bonheur. Ça a dû vous intéresser, parce que la notion de bonheur, d'épanouissement personnel est au cœur aussi de votre œuvre, de votre réflexion.
J'ai beaucoup travaillé sur le soin. Je pense en réalité que je suis tout à fait d'accord avec son projet, j'allais dire, sa candidature au poste de ministre du Bonheur.
Moi, je le suis aussi, remarquez.
Et la bienveillance me paraît pas du tout ridicule. Au contraire, les railleurs qui se moquent de tout ça. Alors là, les railleurs vont railler. Mais j'aurais quand même fait une différence. Là aussi, j'aurais reformulé. J'aurais plutôt dit, c'est peut-être un peu moins poétique, mais disons la lutte contre le malheur. C'est-à-dire, au fond, la politique peut pas nous promettre un bonheur absolu, et heureusement, en un sens. Ça a été d'ailleurs très dangereux, historiquement.
Oui. Donc, totalitaire.
Ça peut être totalitaire. L'homme heureux, c'est pas forcément l'État qui nous rend heureux, c'est aussi notre vie, nos conversations. Mais, par contre, que l'État puisse avoir des moyens pour lutter contre le malheur, la misère sociale, l'injustice, la colère, l'indignation, et puis même les maux très concrets, la pollution, les risques qui pèsent sur l'environnement, ça oui. Et donc, au fond, peut-être que tous les ministères sont en principe des ministères contre le malheur, mais qu'il y ait quand même, je pense, une vraie saisie des vrais problèmes. C'est-à-dire qu'on a assisté dans cette campagne électorale à un déplacement des problèmes, pour de bonnes et de mauvaises raisons. Mais maintenant, il faut revenir aux vrais problèmes. Donc je pense que c'est ce qu'elle voulait dire. Mais en même temps, qu'il y ait un peu de joie, d'émotions positives dans les moments de fête. Moi, je dirais, il y a des moments de fête, et il y a le temps au quotidien de la lutte contre le malheur.
Qui est souvent moins drôle, effectivement. Je reviens aux trois mots de la démocratie, selon vous.
Les mots MAUX
que vous développez dans ce livre, les maladies chroniques de la démocratie. On a parlé du cynisme déjà. Il y a un deuxième mal que vous distinguez, Frédéric, c'est le racisme. Là, ça va particulièrement intéresser nos auditeurs africains.
Oh, je crois qu'on est tous concernés, et on est tous concernés à la fois comme objet et comme sujet du racisme. Le racisme, je le définis d'une manière peut-être un peu surprenante, non seulement comme une erreur sur l'autre, qui consiste à l'essentialiser, le figer, mais aussi comme une erreur sur soi-même. Une erreur qui consiste à faire de celui qui se divise comme raciste ou comme supérieur aux autres, justement quelqu'un de parfait. Moi, je pense que la démocratie, c'est l'acceptation d'un cadre commun pour penser des ambivalences, des risques réels. La raillerie, c'est le doute sur le commun. Le doute sur le principe commun. Et le racisme, pour moi, c'est le déni de la division intérieure, le déni du fait qu'en effet, être blanc, être ceci, être cela, rien ne nous garantit une perfection, nous sommes tous divisés intérieurement, et inversement, l'autre n'est pas réductible à un caractère bon ou mauvais. Et a fortiori mauvais. Il n'y a pas une catégorie qui serait ceci ou cela par essence. Nous sommes tous divisés. Et donc, je pense que le racisme est fondamentalement un déni de la division intérieure, un déni des vrais clivages entre les hommes, un déplacement des problèmes qui est extrêmement dangereux et qui déplace les problèmes intérieurs contre lesquels la démocratie doit lutter. Faire des problèmes extérieurs, des ennemis absolus, souvent biologisés. Le terme de race, au fond, n'est plus légitime depuis longtemps chez les biologistes. Mais il a fait des ravages au XXe siècle. Il a été le prétexte à l'essentialisation des hommes. Et aujourd'hui, on parle peut-être plus de race, mais le racisme est toujours là. Et ce mot de racisme ne disparaîtra pas parce qu'il désigne le mal fondamental, l'essentialisation des hommes qui permet la guerre radicale.
Pour nous écrire par courriel, semaine.actu@rfi.fr.
C'était donc notre adresse électronique. Merci pour vos messages. Continuez plus que jamais à nous écrire. Je salue aujourd'hui Issa qui est au Tchad et qui félicite les Français après l'élection. Bonjour à Malal qui vit lui à Nouakchott en Mauritanie. Il écrit « Quoi qu'on dise, la France a encore toute sa tête. Il est inimaginable que l'extrême droite gagne les élections au pays des droits de l'homme », dit-il. Un bonjour à Oumar à Yaoundé, à Boubacar à Niamey, à Jérémy à Moundou au Tchad et à Sophie à Nantes qui nous écoute sur internet rfi.fr.
Une semaine d'actualité.
Voilà, c'est parti. Allez, c'est parti, nous allons partir pour l'Afrique, mais sans quitter des yeux l'élection présidentielle française. Vous avez pu entendre, Frédéric Worms, bon nombre de réactions africaines après l'élection d'Emmanuel Macron dans nos différents rendez-vous d'information. Revenons sur celle que notre correspondant Guillaume Thibault a recueillie à Dakar.
Dans les locaux d'Amnesty International, c'est le soulagement qui prime. La peur de voir le Front National diriger la France était grande. Désormais, explique Sédi Gassama, directeur de l'organisation au Sénégal, il faut mettre la pression sur Emmanuel Macron.
On doit parler, de mon point de vue, de démocratie avant de parler d'économie. Macron est jeune, il est né après les indépendances, il est né pendant que beaucoup de ses chefs d'État étaient déjà au pouvoir. Il faut que le discours qu'il adresse soit un discours très clair. Que le respect des principes démocratiques, le respect des droits humains, le respect de la bonne gouvernance seront au centre de ses priorités.
Autre attitude radicalement différente. Au sein du mouvement Y en a marre, cette élection d'Emmanuel Macron, comme celle de Donald Trump, n'a pas été suivie. Pour Fadel Barreau, le changement ne pourra venir que d'Afrique.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les hommes politiques qui arrivent disent qu'ils s'inscrivent dans la rupture. Nous faisons partie d'une génération qui pense que tout ça ne nous regarde pas. La politique de Macron, la politique de Marine, la politique de la gauche, la politique de la droite, pour nous, ça ne changera pas grand-chose parce que le salut viendra de nous-mêmes quand on décidera de s'émanciper. Quand je parle de nous, je parle de la jeunesse africaine.
Seul point commun à ces organisations de la société civile, elles demandent à Emmanuel Macron de respecter l'Afrique et ses habitants, de parler d'égal à égal.
Alors justement, quelle est la vision d'Emmanuel Macron en ce qui concerne le continent africain, l'Afrique, Jean-Jacques Loirne?
Macron, l'Africain, fera-t-il dans ses relations avec les chefs d'État du continent du Macron, simple, sympathique, à l'écoute de l'autre? D'aucuns évoquent une France-Afrique dépoussiérée. Le patron d'En Marche l'a dit, la politique de normalisation engagée par François Hollande doit aller à son terme. Pas de retour en arrière dans la lutte contre le terrorisme, l'Afrique subsaharienne restera un théâtre d'opération en y associant plus l'Union africaine, le G5 Sahel et le partenaire algérien. Sur le plan économique, Emmanuel Macron entend mettre l'entreprise et l'Union européenne au cœur de son dispositif. Pour l'aide au développement, eh bien le fameux 0,7% du PIB français n'est pas démenti. C'est un objectif. Le jeune énarque découvre le continent lors d'un stage au Nigeria. Entre 2014 et 2016, le ministre de l'économie visite quelques pays de la zone CFA, rencontre Alassane Ouattara, Macky Sall. Le candidat, lui, se rend à Alger, où il évoque les crimes contre l'humanité commis par la France, avant d'adoucir, de retour à Paris, son propos. Très vite, le nouveau président doit visiter les forces françaises sur le terrain, incontournable aussi Rabat, surtout après le voyage à Alger. Le pragmatisme est un credo assumé. Macron, c'est un changement de style dans la continuité.
Frédéric Worms, avant de vous retrouver, revenons aussi sur l'héritage de François Hollande en matière de politique africaine. Anne Cantonneur.
Moins d'un an après son élection, François Hollande s'impose comme chef de guerre, dévoilant un visage qu'on ne lui connaissait pas. En janvier 2013, le président français envoie des troupes au Mali pour repousser les djihadistes et les groupes armés Touareg qui progressent vers la capitale. Trois semaines plus tard, au milieu d'une foule en liesse dans un Tombouctou libéré, François Hollande confie « C'est le jour le plus important de ma vie politique ». Pourtant aujourd'hui, l'État malien est toujours absent de villes comme Kidal. Les djihadistes sont toujours présents dans le nord du Mali, même s'ils ont été dispersés. Et la menace s'étend même au Burkina Faso et au Niger. Le bilan de l'opération Sangaris en Centrafrique n'est pas vraiment meilleur. Le pays est toujours en proie à l'insécurité et aux violences. On reproche aussi à François Hollande d'avoir fait passer la sécurité avant tout le reste. Le président français, qui s'était montré très distant avec Joseph Kabila et avait fait la leçon aux dirigeants camerounais et congolais au début de son mandat, s'est montré ensuite nettement moins regardant. Il n'a quasiment pas commenté la modification de constitution qui a permis le maintien en pouvoir de Denis Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville, ni les réélections contestées d'Ali Bongo au Gabon ou encore du tchadien Idriss Déby, devenu un allié essentiel dans la lutte contre le terrorisme.
Suite d'une semaine d'actualité, Frédéric Vamp, vous avez écouté ces éléments sur l'Afrique avec une extrême attention. On va reparler du troisième mal de la démocratie. On va parler du troisième mal de la démocratie que vous développez dans ce livre, les maladies chroniques de la démocratie, c'est-à-dire l'ultralibéralisme. Mais je voudrais réagir sur ce qu'on a entendu. Vous avez entendu ce Dakarois, ce Sénégalais qui dit... Nous, on ne peut compter, on ne doit compter que sur nous-mêmes.
Oui, mais il aurait tort de l'opposer à ce que disait le précédent intervenant, celui d'Amnesty International, je crois. Je crois vraiment que il a donné le ton, c'est-à-dire qu'en un sens, cette victoire, en effet, de la démocratie, ce retour sur les principes liberté, égalité, fraternité, qui ne valent pas seulement pour la France, c'est la condition des deux autres problèmes. C'est-à-dire, au fond, d'une... En effet, ça ne règle pas tout, que les uns les fait, ils ne vont pas l'imposer aux autres. Il faut que chacun le fasse par soi-même, mais la condition pour s'émanciper soi-même, c'est quand même que ses principes soient partagés. Donc il a raison, et d'ailleurs c'est frappant de retrouver au sein du Sénégal les mêmes débats qu'en France.
Oui.
Il y a ceux qui disent on est soulagé, mais maintenant tout n'est pas fini. Eh bien c'est la même chose, on est soulagé, mais tout n'est pas fini, mais pour qu'on puisse recommencer, il fallait bien réaffirmer ce cadre très puissant que trop d'intellectuels ont dénigré en France, le droit de l'homisme et tout ça. Je crois que ça c'est insupportable, il faut en finir avec ça d'abord. Et après, revenir en effet à l'action concrète, y compris contre un certain paternalisme français, un certain risque de déni de la violence coloniale, etc. Donc je crois que le deuxième intervenant a raison, et votre troisième thème aussi. Comme on l'a dit pour la France, les problèmes militaires, les problèmes de sécurité sont réels, ils expliquent parfois, ils peuvent excuser et justifier une suspension provisoire des droits de l'homme, mais les faire passer sous le tapis au nom de la sécurité, c'est effectivement très dangereux. Donc c'est vrai que la boussole, à mon avis, doit être la démocratisation du monde contre les dangers qui reviennent, et c'est la condition du développement économique et du reste. Et en effet, pour lutter contre le troisième risque, l'ultralibéralisme, la mondialisation, certaines dérives de la mondialisation, c'est la même boussole, elle est politique.
Alors, est-ce qu'il faut s'y arrêter un instant à cette troisième dérive, Frédéric Worms, qui est peut-être... parmi les trois, la plus inquiétante, parce qu'elle menace en fait c'est les relations humaines qui sont bouleversées. En fait.
L'ultralibéralisme, le préfixe est important, c'est justement la réduction de la vie humaine à un seul plan, qui est une liberté comprise comme calcul individuel économique, le fameux homo economicus. Je pense que la liberté et l'économie ont leur place. La liberté conçue ainsi a évidemment sa place dans la vie humaine. Elle devient dangereuse quand elle usurpe le tout et quand elle devient une concurrence acharnée, et surtout un déni des liens entre les hommes, c'est-à-dire ce déni de solidarité. Et en un sens, c'est le danger le plus grave, et surtout, c'est sa convergence avec les autres qui est la plus grave. Je pense que Donald Trump représente ça à l'extrême. C'est-à-dire, Donald Trump, c'est à la fois quelqu'un qui dit « nous les Américains », sans admettre de division, et qui en plus dit, division totale, chacun pour soi, concurrence totale, aucune solidarité avec le reste du monde. Donc c'est le danger le plus grave, surtout au niveau mondial aujourd'hui, et c'est aussi de là que viendra la ressource. Parce que je crois qu'on peut dénier la solidarité dans une société, c'est déjà difficile à mon avis, de dénier qu'un vieillard, qu'un malade, que les pauvres ont besoin des autres. Mais au niveau mondial, heureusement, en un sens, les urgences climatiques obligent de nouveau à une solidarité.
C'est la clé de la justice. Une politique de relation.
Une politique de la relation.
C'est ce que vous dites.
Absolument. C'est redécouvrir que nous sommes solidaires, que même sur une plage supposée paradisiaque où on va s'isoler du monde dans un yacht ou je ne sais quoi, quand on en a les moyens, eh bien, on voit arriver la pollution du monde. Parfois, dans certaines îles idylliques de la mer Égée, des cadavres d'êtres humains refoulés de leur pays par la violence politique ou par la misère. Et donc, au fond, nul n'échappe plus à ce monde commun. Ça n'est plus un mot, c'est une réalité technique, biologique, cosmologique et politique.
Et l'ultralibéralisme nourrit aussi le populisme qui, on a vu ses ravages ces derniers mois, aux États-Unis, en Grande-Bretagne et même en France, dans une certaine mesure. Vous écrivez, Frédéric, les adversaires de la démocratie d'aujourd'hui ne veulent pas la remplacer par le totalitarisme, mais la transformer de l'intérieur en tyrannie.
Ça me frappe beaucoup. C'est-à-dire qu'au fond, aujourd'hui, le populisme avance masqué, en quelque sorte. Dans les années 30, il y avait moins de scrupules, en quelque sorte. Les doctrines totalitaires s'affichaient au grand jour. Oui. Et le totalitarisme disait clairement « la démocratie est un régime impuissant, ce sont des faibles, etc. » Aujourd'hui, les leçons du XXe siècle ont porté au moins dans le langage. Et c'est au nom de la démocratie qu'on veut la renverser. Donc il y a une forme d'hypocrisie, de langage masqué de la dictature, qui néanmoins est toujours là, qui est très puissante. Et cet hommage du vice à la vertu, même en Chine, où on nous parle de démocratie, puis alors, il y a des revendications. On est même plus démocrate que vous, c'est une surenchère. Les dangers aujourd'hui viennent de la surenchère. On voit bien que les théories du complot se basent sur une surenchère démocratique. Elles disent, nous sommes plus critiques que vous. Elles en viennent à tout critiquer, même la science, même le climat, enfin, même les savants qui diraient 2 fois 2 font 4, ouais, ils auraient
les fausses vérités.
Voilà. Donc en fait, on critique et on tue la démocratie en son nom. Et au nom d'une surenchère démocratique, on nous dit « on vous ment ». C'est vraiment la critique d'un cadre démocratique commun. Alors qu'encore une fois, la démocratie, ça n'est pas le droit de dire tout ce qu'on veut et n'importe comment, c'est un cadre commun, ce sont des institutions.
Merci Frédéric Worms. Il faut naturellement lire « Les maladies chroniques de la démocratie », un livre publié chez Desclée de Brouwer, et à bientôt, soit dans cette émission, soit dans Idées, un dimanche.
Quand vous voudrez, merci de votre générosité.
Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovensky. Je vous retrouve demain pour le magazine Idées, justement. Nous parlerons cette fois de la ruse et de la force dans la stratégie militaire, avec notre invité, un expert, Jean-Vincent Olindre, qui vient d'y consacrer un livre demain dimanche, 17h10, heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.